Nous sommes le jeudi 26 mars, il est 21h sur Radio Canus 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Romain qui a préparé cette émission en suivant un adage souvent respecté dans le nerf de la game. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais vraiment, vraiment bien.
Exactement, au talent, comme on dit.
Au talent.
Comme on dit souvent dans cette émission.
Écoute, enchanté. et hâte de voir ça.
Ah, t'es pas prêt.
Bonsoir Bettina.
Bonsoir.
Comment tu vas ?
Eh ben, ça va. Fatigué, mais ça va.
Effectivement, le mois de mai se rapproche. Hein. On voit des choses qui s'annoncent du côté d'un certain événement du côté du CCVA le 15 et 16 mai. Mais je préfère pas dire lequel, évidemment. Et elle est de plus en plus sollicitée, mais elle tient bon la barre du nerf de la game et ça fait plaisir.
Oh. Oui, et puis le week-end dernier, j'ai nourri tous ces jammers et jammeuses. J'ai réussi à dormir quand même entre temps, mais je suis encore fatiguée.
Est-ce que tu as eu l'occasion de toucher à des jeux ou pas, ou vraiment c'était full service?
Ah, tu veux dire pendant la jam?
Ouais.
Non,
à la fin de la jam, justement, pendant la présentation tout le dernier jour.
Non, après les présentations, j'étais trop claquée.
Ouais, pas étonnant. Ouais.
On a fait le petit pot de clôture et puis ciao.
Okay. Pour rappel, c'était la Scientific Game Jam
Exactement.
De Lyon.
Oui.
Qui a lieu donc le week-end dernier et qui a déjà les jeux disponibles.
Oui, en fait, quand les équipes rendent les jeux, les jeux sont déposés sur la page itch.io de la Scientific Game Jam. Donc, ouais, ils sont dispo, ouais.
Ok.
Eh bien, écoutez, ce soir, qu'est-ce qu'il y a au sommaire de l'émission ? On va parler de l'éditeur Krafton, un géant coréen qui a transformé un mode Steam en machine à cash et qui patine aujourd'hui entre décisions foireuses et délires sur l'IA. Mais d'abord, on va vous donner des nouvelles des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Oui, merci. Eh bien, je vais vous parler de Fading Echo. C'est le premier jeu du studio Emeteria, studio lyonnais, qui est en fait le studio interne de l'éditeur New Tales, qui lui se trouve en région parisienne. Donc Fading Echo est un jeu d'action-aventure où la corruption du paradoxe déchire le monde, déforme la réalité et consume tout sur son passage. Et donc on va devoir se battre pour l'arrêter avant qu'il ne dévore ce qu'il reste. On y incarne Wan, une jeune légende qui a la capacité de se transformer en boule d'eau. Et là, on glisse sur les surfaces, on passe dans les fissures, on traverse les filets, on s'insère dans les tuyaux, etc. etc. Donc oui, on devient littéralement de la flotte.
Je suis très pour. je suis très pour.
Ouais, c'est très très cool. Mais se transformer en eau ne fait pas que changer nos mouvements. En fait, on peut se mélanger à des matières comme la lave ou les déchets toxiques, par exemple, pour avoir des nouveaux attributs. Et donc, on peut brûler, solidifier, affaiblir. En fait, il y a pas mal d'interactions environnementales et élémentaires. Sachant qu'on a aussi des attaques au corps à corps et des pouvoirs utilisant l'eau pour pouvoir se battre. Le jeu doit sortir fin 2026, mais il y a une démo dispo sur Steam si vous voulez l'essayer. Et puis, il sera à un certain salon bientôt si vous voulez rencontrer l'équipe.
Oh là là! Une avant-première, une info en avant-première.
Ouais, enfin les infos ont commencé à sortir sur les réseaux pour le moment. Mais...
Il paraît.
Moi ce que j'aime bien c'est qu'on n'a toujours pas cité le nom de ce salon.
C'est vrai, c'est un grand mystère.
Et peut-être qu'on arrivera à la fin de l'émission sans citer l'Indie Game. Merde. Merde. Merci Bettina.
De rien.
Krafton. Krafton, ce mastodonte sud-coréen du jeu vidéo porté par un truc qui s'appelle PlayerUnknown Battleground ou PUBG.
Voilà, pour les profanes.
Voilà, pour les profanes.
PUBG, je sais qu'il y a des gens
PUBG.
qui disent
PUBG. J'entends pas mal sur les streams anglo-saxons, j'entends PUBG.
Oui.
Je sais pas.
L'important c'est qu'on sache de quoi on parle.
Oui, voilà.
On parle d'un Battle Royale.
On parle donc d'un Battle Royale. Ouais, en fait, on parle du jeu qui a popularisé le Battle Royale.
C'est ça. Qui a quand même eu comme impact de transformer Fortnite, qui n'était pas du tout un jeu de ce genre à la base, en Battle Royale, enfin en tout cas le mode Battle Royale.
D'ailleurs, Fortnite qui sort actuellement sa version avant Battle Royale.
Oui, mais elle a toujours été plus ou moins dispo, mais qui la remet plus ou moins en avant.
Voilà, c'est ça. Ouais.
C'est effectivement, parce que Fortnite, on est bien d'accord que ça veut dire fort et nuit. En fait, le principe de Fortnite à la base, c'est que tu défends un fort la nuit contre les attaques de monstres qui arrivent la nuit.
C'était un tower defense à la base.
C'est un tower defense à la base et solo. C'est pas du tout un jeu multi. Et c'est devenu, en fait, à devant le succès, parce que Fortnite n'a pas marché à sa sortie, et ils ont vu le succès de PUBG et ils se sont dit, c'est pas con. Et du coup, ils ont complètement repris le principe et proposé une version Battle Royale qui est devenue finalement le Fortnite que. Quand on parle de Fortnite, on parle de ça.
Celui auquel on parle,
c'est ça. Et pas d'autres modes d'ailleurs.
Fortnite était parti sur un échec façon Paladin qui était sorti à peu près à la même époque.
Même Highguard ou Concorde.
Je parlais des jeux qui étaient sortis à l'époque. C'était parti sur un bon gros flop des familles.
Ils ont fait
en gros un PUBG gratuit. C'était ça en fait.
C'est ça qui a marché.
Que le jeu, ce qu'on dit pas, PUBG, donc qu'est-ce que c'est?
Ça me fait bizarre.
Tu peux pas dire PUBG. Le jeu de merde là, le Battle Royale.
Allez.
Le Battle Royale à la con là. Donc ça, à la base, c'est ce qu'on appelle.
Qui était payant à la base et qui maintenant est gratuit.
Oui, je parle quoi. Si les gens se sont fait de l'argent, c'est parce qu'il était à 30 euros à la base. Et c'était ce qu'on appelle un mod pour Arma 3. Un mod, c'est donc une extension d'un jeu. Il faut avoir normalement le jeu de base et installer cette extension-là pour jouer à un nouveau mode de jeu.
C'est voilà. Ça. Un système qui a été vachement popularisé par Half-Life, qui a été vraiment une source, une base, et même Quake aussi, mais sûrement plus loin encore.
Voilà.
Mais effectivement, pour proposer des systèmes de jeu plus complexes, il a fallu attendre certains types de jeux. Et effectivement, Arma 3 était déjà un jeu extrêmement complexe qui permettait. Oui. C'est lui qui avait créé DayZ avec Arma 2.
C'est ça déjà.
Donc c'était déjà un mode.
Je fais une parenthèse qui n'a rien à voir, mais parce que j'y pense, et c'est ma reco random de la soirée. Il y a un documentaire produit sur Arte, donc qui est sur le YouTube d'Arte. Le problème, c'est que là, je ne vais pas me retrouver le nom. Mais en fait, c'est un docu en 3 épisodes, je crois, et c'est un gars qui fait du RP dans Arma 3 sur un serveur.
Yes.
Et c'est trop bien, c'est trop drôle et c'est trop bien. Enfin, vraiment, je vous le conseille. Peut-être, même si je retrouve pas le titre, vous le trouverez quand même.
Mais tu as des communautés effectivement d'Arma 2 et puis maintenant Arma 3 qui sont
ça s'appelle la vraie vie.
Ouais, c'est ça, c'est la vraie vie.
La vraie vie, rejouer son quotidien en ligne.
Exactement.
Il y avait eu plusieurs articles, je crois que j'ai en tête au moins 2 articles dans Canard PC qui s'étaient intéressés à ces communautés. Je connais quelqu'un personnellement qui fait du vrai. Arma en mode on rampe dans la boue pendant une demi-heure avant de tirer 2 balles et puis mourir.
Oui, en escouade. Ouais.
Voilà, ouais, c'est ça. Vraiment le mode.
Ah oui. Là, du coup,
Arma, c'est vraiment un jeu de poilu à la place
de dire.
Et de poilu, pas poilu, il faut être poilu, non, de poilu 1914. Hein. Du genre, tu vas en chier,
voilà,
et tu vas crever, et c'est relou.
Et tu sors pas du rang.
Ouais, voilà, non, mais c'est plutôt ce genre de jeu. Voilà, hein. C'est un jeu à grosse discipline.
Mais du coup, je continue ma parenthèse dans ce docu, donc qui s'appelle La Vraie Vie. En fait, il est sur un mode de Arma 3 où c'est une île et donc les gens l'appellent l'île et ils jouent à La Vraie Vie. Ils font du RP de La Vraie Vie.
Ok, donc
façon Second Life en fait.
Façon GTA, ok. Et donc il arrive et il faut qu'il se trouve un travail, il va à Pôle emploi, il rencontre des gens et tout. Non mais c'est vraiment. C'est trop bien
parce qu'il y a des flingues. Tu peux t'énerver sur les gens à France Travail, tu vois.
Non mais c'est pas mal. Franchement, ça me rappelle les vidéos de Austin, de Annie Austin, où le type va aller dans des grands jeux open world, que ce soit Skyrim, Fallout ou GTA, et il va dire tiens, c'est quoi le taux d'emploi dans cette ville.
C'est ça, le taux de chômage.
Ce genre de choses. Mais et tu dis en fait, tu sais, à force de d'essayer de relier justement les mondes ouverts à la réalité, etc. Donc voilà. Donc donc en fait tout ça, on, et ben ça nous fait beaucoup discuter, surtout et ben ça a généré beaucoup d'argent.
Et oui.
beaucoup.
Le PUBG c'est quoi? C'est 2013-2014?
Non, c'est 2015 parce 2015. Que Arma, ah, en fait Arma 3, Arma 3 est sorti en 2014, okay. Et PUBG est sorti une première version est sortie en 2015, okay. Et ça s'est monétisé à partir de 2016.
En tant que jeu à part.
Voilà, en fait. C'est ça.
Un peu comme DayZ finalement qui est devenu un jeu à part de Arma 2.
C'est ça.
Quelques temps plus tard.
Mais avant tout ça, parce que là, en fait, à la base, on parle de Krafton, parce que maintenant, quand on parle de PUBG, en fait, c'est la vache à lait de Krafton, c'est ce qui leur fait gagner de l'argent, mmh. Clairement. Mais avant ça, Krafton, c'était quoi? C'était un truc qui s'appelle Blue Hole. Blue Hole, qui est en fait une entreprise qui est née en 2007 à Séoul, donc en Corée du Sud, et qui surtout est une entreprise qui fait des jeux vidéo de MMO, donc des jeux de rôle multijoueurs. Massivement multijoueur, et le jeu le plus connu qu'ils ont, c'est un jeu qui s'appelle Terra, et exactement comme quand on avait parlé de NetEase, etc., ce sont des jeux qui ne sont joués que en Asie,
okay.
Quasiment.
Et qui, pareil, sont des machines à pognon.
Ah oui, ils ont aidé.
Dans le cas de Terra, enfin,
dans le cas de Terra, sachant okay. Que le Terra a été créé en 2010, il tourne encore aujourd'hui.
Ok.
Voilà, donc il tourne aujourd'hui, pas gratuit. Donc ça veut dire que ça va à la vie.
Et par contre, est-ce qu'il est traduit? Est-ce qu'il existe vraiment physiquement?
Il est traduit aussi. Il est traduit en anglais.
Ok.
Mais le marketing n'a pas été fait de façon extensive sur okay. Les territoires occidentaux.
Pas comme les Crimson. Voilà. Enfin quoi, comme Desert Online ou
c'est
quoi.
Voilà, c'est pas comme Black Desert Online. C'est pas comme When Winds Meet. Où les jeux ont été vraiment développés en se disant on va essayer de toucher l'Occident, la Terra, ils ont dit ok on traduit, mais parce que on sait qu'on a du public qui est potentiellement qui va parler une des langues asiatiques dans lequel était traduit, mais qui sont pas sur des territoires asiatiques, et donc ça peut être intéressant, notamment aux États-Unis d'avoir ça. En Europe par exemple, des joueurs de Terra, ils en avoir 25, tu vois.
Oui, les diasporas asiatiques sont un peu moins importantes que alors dans d'autres territoires.
Quand elles existent, elles sont pas sur ce type de jeu. Elles sont plus sur du gacha pur jus d'ailleurs. Et donc en fait, le truc c'est que forcément, ça c'est donc ça c'est Blue Hole, et le tournant c'est donc PUBG Battlegrounds, le Battle Royale signé Brendan Green qui est donc irlandais.
C'est le surnom en fait, PlayerUnknown.
PlayerUnknown, c'est son pseudo en fait, et il est irlandais, et il a déménagé en Corée du Sud en 2015. Parce qu'il y a une entreprise qui s'appelait, je crois que c'était Gino Studio, un truc comme ça, oui. Qui faisait partie de Blue Hole, qui lui a dit, avec ton jeu, ça sent l'argent, viens. Mais quand tu viens, c'est vas-y, pars de l'Irlande, on te voilà.
On va te mettre bien.
Et le jeu en fait, faut pas oublier que il a explosé en early access, c'est-à-dire que c'est pas la version définitive qui a explosé. C'est déjà en fait, il a mis un jeu qui était pas fini, en disant on va essayer le mode, mais ça sera peut-être augmenté plus tard. Le truc avait tout pété. Je trouve que 2017, enfin, il y a eu beaucoup de nouvelles ères du jeu vidéo et que maintenant,
ouais,
voilà. Je trouve que PUBG a marqué un truc sur la culture de comment on consomme les jeux vidéo assez fort quand c'est arrivé en 2017 où, des fois, tu sais, t'as des phénomènes où tu dis, ouais, c'est que en Asie ou c'est que sur certaines populations. Celle-là, ça a pété de partout. Absolument partout. Et, forcément, ce qui s'est passé, c'est, on a des millions de joueurs. On a une entreprise chinoise peu connue qui s'appelle Tencent.
Oui, à peine connue, oui.
Oui, en gros, pour ceux qui ne sauraient pas, Tencent, c'est la e-corp. C'est e-corp.
Écoute,
c'est la World Company, en gros.
T'as pas le droit de dire ça sur Discord parce qu'ils en possèdent une bonne partie, mais.
Mais bon, mais voilà. Mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, en gros, c'est un mastodonte de l'entertainment. C'est un mastodonte de l'entertainment en général.
Voilà.
Donc, ils ont des chaînes, ils ont des sites, ils ont plein de choses. Et ils ont de plus en plus de participation
dans des jeux vidéo,
massive et majoritaire dans certains cas, et minoritaire dans beaucoup de cas.
Oui,
dans
bien sûr.
De studios,
parce que nous, on s'intéresse aux jeux vidéo, mais il faut aussi voir tout ce qui est entertainment, notamment tout ce qui va être cinéma, tout ce qui va être chaîne de télé, tout ce qui va être divertissement de manière générale. Tencent a forcément un pied dedans.
Et dans le jeu vidéo, pour être, enfin Tencent, ils ont, si je dis pas de bêtises, ils ont 30% de l'Ariane.
Ils ont 30% de l'Ariane.
Ils ont 30% de l'Ariane.
Ils ont 49% de la holding Ubisoft Vanguard.
Oui, Vanguard. Et ils ont combien d'Epic Games?
49.
49 aussi, aussi. Ouais, voilà. Donc bref, ils ont du pognon dans des trucs qui rapportent beaucoup.
Beaucoup, oui. Ça va bien, la vie, ça va. Voilà. Et donc, à partir de 2018, c'est là qu'on entend la première fois le mot Krafton.
Okay.
Parce que actuellement sur le mot Krafton, lorsque tu regardes sur les coupures presse, ils te disent Krafton a été créé en 2007. Non, c'est Blue Hole qui a été créé en 2007. Ils ont mis le nom Krafton parce que ce qui s'est passé en 2018, c'est qu'ils disent on va prendre Blue Hole, on va prendre PUBG, on va prendre plein d'autres petits studios qu'on a. Et Tencent a dit on va faire un lot et on va appeler tout ça Krafton.
Et voilà. on va mettre un peu d'argent au milieu.
Ouais, et pareil. Ils ont injecté littéralement des milliards.
Voilà.
Voilà, ils ont dit on y va. Et en plus, faut pas oublier que on est donc la création de Krafton, c'est en 2018.
Ok.
PUBG fonctionne très 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 bien encore sur cette période-là. En 2020, arrive encore un truc. J'ai l'impression de dire toujours la même chose. Le Covid.
Et oui.
Et ça marche toujours très très bien PUBG. Oui. Et Tencent, qui mettait beaucoup d'argent, s'est mis à imprimer plus d'argent qu'ils en mettaient. Donc c'était et donc Krafton est devenu très très bon. Introduction en bourse à la bourse de Séoul en 2021. Une introduction en bourse historique, vu que c'est la première fois qu'une entreprise arrivait en disant bonjour, j'ai une entreprise à 5 milliards de dollars.
Mm-hmm.
D'habitude, tu dis je rachète. Non, non. Tu arrives, t'as 5 milliards. c'est bon.
Okay.
Voilà. Et puis, après, entre 2021 et 2026, ils ont racheté 27 studios.
Racheter ou participer? Enfin, vraiment racheter, racheter.
Ah non, racheter.
Okay. Racheter 100%.
Pour le coup, eux, ils font pas dans le. Qu'on avait dit de NetEase, c'est-à-dire on participe à votre truc. Non, non, eux, ils ont tout pris.
Ou même l'Arabie Saoudite fait ça.
Oui, l'Arabie aussi, voilà.
Avec ses différentes.
Voilà, on participe entités. Un peu et tout. Non, Krafton, eux, ils étaient vraiment dans on prend tout. D'ailleurs, on verra après, c'est ce qui leur coûte quelques soucis d'ailleurs.
Oui, parce qu'il y a des trucs qu'ils ont rachetés cher.
Oui, ils ont racheté très cher. Ou ils ont acheté pour des prix qu'on connaîtra jamais. Alors, le truc, c'est que la plupart des choses qu'ils ont rachetées, c'était pas des studios avec des très gros noms occidentaux.
Okay.
Les trois qu'on connaît le plus, ça va être le premier, c'est Tango Gameworks qui s'était fait dégager de chez Microsoft.
Alors, techniquement, ils avaient fermé le studio environ tout le monde, mais en gardant l'existence du nom, ils ont dit
cassez-vous. On ferme l'entité chez Microsoft. L'entreprise existait encore et donc a été rachetée. Le cadavre a été racheté par Krafton avec une bonne partie des employés, mais pas Mikami. Sachant que Tango Gameworks, c'est The Evil Within ou Hi-Fi Rush.
Voilà, mais ils ont effectivement racheté la licence Hi-Fi Rush.
Oui, mais pas Evil Within parce qu'ils ont
rien à foutre. Evil Within parce que c'était des jeux d'horreur.
Bah oui.
Sympathique, mais sans la même, enfin, pas avec la même aura.
De toute façon, ils s'en foutaient parce qu'en jeu d'horreur, ils avaient acheté un truc qui s'appelle Striking Distance. Les gens qui ont fait The Callisto Protocol, qui a cartonné.
Oui, pas du tout.
Pas du tout.
Et pourtant, c'était fait par, j'ai oublié son nom.
Par un ancien Dead Space.
Le créateur de Dead Space, vraiment.
Par Scofield.
Scofield, voilà. Mm. Le mec qui s'était évadé de prison. C'est pas lui. Non, c'était effectivement le mec qui avait créé la licence Dead Space et qui avait quand même, qui était aussi une licence qui imprimait du pognon à une époque.
Je sais pas ce que je dis, mais je le dis vraiment, vraiment bien. Ah, voici une belle illustration.
J'ai promis, hein. Moi,
j'étais à ça de faire le générique, mais en fait, je me suis rappelé qu'on était à l'antenne.
Oui, non, il faut pas. Il faut pas.
M'abstenir.
Mais tenez-vous, voyons.
Oui, non, mais en plus,
c'est une blague pas drôle.
Non, mais.
Mais moi, je rebondis.
Évidemment. Celui dont on parlera un petit peu plus tard, c'est le studio Unknown World qui a fait. Un des succès, on va dire, surprise de 2017-2018.
Ouais, je crois que c'est ça.
2017-2018, qui s'appelle Subnautica.
C'est ça.
Et qui a été, et d'ailleurs, vu qu'on parlait de Tencent, a été le premier jeu offert sur l'Epic Game Store.
Tout à fait, à la création en 2018, toute fin 2018, c'est le 7 décembre 2018.
C'est ça, ouais. Grâce à l'argent de...
De tout ça.
Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, PUBG reste la vache à lait, de Krafton. Hein. Mm-hmm. Rien que si tu prends 2024, il y a eu 40% de croissance de joueurs entre PC, console et mobile, parce qu'il y a PUBG mobile aussi.
Mais oui.
Non, mais ça imprime des thunes, vraiment.
Maintenant qu'il est devenu gratuit, justement.
Voilà.
Je ne sais plus en quelle année exactement il est passé gratuit.
2024.
Ok, et du coup maintenant tu achètes en fait du contenu,
c'est ça.
Du coup un peu comme dans Fortnite.
Oui, comme dans Fortnite, voilà. Enfin, il y a pas les systèmes de V-Bucks, mais c'est le même style.
C'est ça.
Voilà. Et depuis... comme CS:GO, comme
oui, voilà. C'est devenu gratuit, CS2 devenu gratuit.
Comme Valorant, comme la. Un modèle relativement classique
Tu as et du coup Brendan Green le player non en question est parti faire autre chose maintenant.
Oui, il est officiellement plus dedans, mais de toute façon il ne touchera pas un centime dessus parce qu'il a tout vendu
100%,
ouais.
Quoi.
Oui,
un peu comme l'auteur de The Witcher,
c'est ça.
Le mec Sapkowski là, il a vendu les droits à CD Projekt et maintenant les mecs ils impriment
mais après une fois de plus hein, il est parti avec une undisclosed
un parachute doré parachute en platine.
Alors,
flotte moins bien
je pense que non mais je m'inquiète pas pour lui, on va dire que ça devrait bien se passer.
Mais du coup il prépare d'autres jeux, il a un autre jeu en préparation.
Voilà. Bref. Donc, on va parler de Subnautica 2 un tout petit peu plus tard. Sachant, il faut savoir que même si PUBG c'est l'essentiel des thunes de Krafton, ils veulent quand même se diversifier avec notamment d'autres jeux comme InZoi, un simulateur de vie.
The Sims-like en moderne entre guillemets, modernisé sur plein de
choses. On va dire ça au moins visuellement.
Voilà, mais full IA.
Ah mais voilà. Là par contre,
sans pas poser de questions.
Voilà,
tous les assets sont
créés par IA. Et qui montre déjà une tendance chez Krafton à se dire, et si on misait sur l'IA générative, et quand ils y sont allés, ils n'ont pas fait semblant.
C'est ça. Mais comme le disait Bettina récemment... Pardon. Non, c'est pas ça.
C'est pas possible.
Non, on n'a pas l'enregistrement.
Ah, non, on n'a pas. Attends, j'ai le son.
Je vais peut-être le
mettre dans le micro. certaines entreprises sont plus discrètes que d'autres au sujet de l'emploi de l'IA générative, parce que ça reste quand même un sujet qui... assez débattu quand même parmi la communauté de joueurs quand même.
Il peut être controversé, il peut être encore expérimental aussi.
Oui, bien sûr.
Donc être utilisé de façon en termes d'expérimentation.
Alors attention, hein, ça c'est
base de travail.
Pour l'instant, il n'y a pas de preuve comme quoi tu mets de l'IA, t'as un backlash et les gens n'achètent pas ton jeu. Il n'y a pas encore de ça, mais il y a quand même un bruit qui est plutôt négatif sur l'IA. Et chez les développeurs, c'est pas quelque chose de populaire, en tout cas.
Non, et de moins en moins. Ça l'était plus selon les derniers sondages qui ont été faits à la GDC, à la Game Developer Conference, donc qui rassemble quand même pas mal de développeurs du monde entier. Où quelques années avant, ils étaient un peu plus intéressés par le concept et ils en reviennent un peu. Enfin, voilà, les pourcentages de gens intéressés et qui trouvent que c'est un outil intéressant diminue avec le temps. À voir comment ça va évoluer.
Voilà, mais pour l'instant, on va dire que lorsque tu es une entreprise de jeux vidéo, tu fais attention à ta communication sur l'utilisation de l'IA générative de manière générale, sauf Krafton. Krafton, on n'a rien à foutre. Parce que Krafton, en fait, de leur côté, ils ont dit, pourquoi je vais me cacher? Je veux être le boss de fin de l'IA. C'est ça qu'ils veulent être. Fin 2025, ils annoncent leur plan pour devenir une entreprise IA first. C'est ce que l'entreprise annonce dans un communiqué le 23 octobre 2025, où il rend compte de sa vision à long terme partagée dans un entretien interne répondant au nom de Transition to an AI First Company.
Pourquoi tu me regardes en disant ça?
c'est juste que j'essaye de t'intégrer, de dire, parce que quand on parle de PUBG, je sens que ça te parle pas. Par contre, l'IA générative, je sens que j'ai un client. En gros, traduction pour ceux qui comprendraient pas l'anglais. On va foutre de l'IA partout dans la boîte. Voilà ce qui va se passer. En somme, Krafton veut utiliser de l'IA dans son système de gestion afin de permettre, attention, on rentre dans un tunnel LinkedIn, Nous voulons utiliser l'IA dans notre système de gestion pour permettre à nos équipes de se concentrer sur des activités créatives et sur des problèmes complexes, tout en augmentant la productivité et la valeur de l'entreprise.
Oui.
Voilà. Le bullshit est rodé, hein. Évidemment, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de merde. Et le truc, c'est que, en plus, ça leur coûte un paquet de thunes, vu que l'entreprise investit plus de 60 millions d'euros juste pour la construction d'une infrastructure qui posera les bases de ce dont a besoin Krafton. Et ensuite 18 millions par an pour former son personnel à l'utilisation de l'IA.
Mais le but, c'est de garder du personnel ?
Alors, évidemment, Krafton affirme le contraire. Affirme le contraire, qu'ils sont là pour que les gens puissent mieux bosser avec l'IA. Mmh. Et d'ailleurs, j'espère que vous pensez pas qu'on va mettre de l'IA dans des choses créatives, genre du texte, du son, des graphismes. C'est vraiment pas le genre de... Ne regardez pas InZoï. Arrêtez, tout de suite. Ne regardez pas InZoï. Le jeu, c'est un node...
Écoute, ça te crache à la gueule. Oui, non, mais c'est...
Écoute, tu regardes InZoï, tu dis, je comprends pourquoi Sora a fermé, en fait. Parce que c'est pareil. Sora était, c'est vrai qu'on peut
jusqu'à
le dire maintenant,
il y a deux jours,
était jusqu'à il y a deux jours l'outil qui était utilisé pour faire des vidéos facilement, gratuitement, en IA. En full IA, et le truc a fermé parce que Disney a dit que ils aiment beaucoup l'argent, mais pas celui-là. Bah, ils croient pas que ça leur rapportera de l'argent.
Et OpenAI aussi s'est rendu compte que ça lui coûtait plusieurs millions par minute. Enfin, c'était un truc de fou, quoi.
Oui, sachant que rien que ChatGPT, tu lui fais sortir 100 lignes. C'est un litre d'eau 5, à peu près. Et je veux même pas savoir ce que c'est pour quand tu sors une vidéo de 30 secondes. Hein.
Ça, et c'est précisément pour ça d'ailleurs que la question se pose aujourd'hui pour tous les chatbots par IA, que ce soit ChatGPT, Claude, ce que tu veux. La question se pose d'intégrer des publicités à l'intérieur, parce que ils se rendent compte que finalement, pour l'instant, ils n'ont pas monétisé ce truc-là. Et que c'est très compliqué, quoi. Très compliqué financièrement de rentrer dans les frais monstrueux qui vont avec.
Effectivement, ouais. Tiens, après cette annonce, c'était le 13, c'était donc le, j'avais dit quand, le 25, le 23 octobre, pardon.
Octobre.
Il y a une autre annonce de Krafton le 13 novembre 2025. Quelle est cette annonce à votre avis ?
C'est le jour où ils ont licencié des gens ?
Krafton ne licencie pas des gens. Ils ont fait.
Ça s'appelle un coup de pied au cul. Hein.
Ils ont fait un plan de départ volontaire. Ça n'a rien à voir.
Le fameux.
Le plan de départ volontaire, l'attrition naturelle, comme on l'appelle chez Ubisoft. Ouais.
On en avait parlé un petit peu à l'époque d'ailleurs, parce qu'on avait parlé un petit peu de l'IA de façon générale, en fait, des grosses boîtes, dont Krafton, veulent l'intégrer dans leur process. Et effectivement, il y avait eu cette coïncidence, on va appeler ça comme ça, la déclaration de on veut devenir un truc full IA, et puis quelques jours plus tard, on licencie plein de gens, notamment dans le service qualité.
Voilà, une fois de plus, on ne licencie pas. C'est les gens, s'ils veulent partir, ils partent. En plus, ce qui est marrant, c'est que dans la communication, c'était, je vais vous lire la communication, le plan de départ volontaire est là pour aider les employés à concevoir de manière proactive leur stratégie de croissance et à relever des nouveaux défis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, dans le contexte de transformation par l'IA. Moi, je lis, à titre personnel, vous n'êtes pas à l'aise avec les transformations de l'entreprise, avec l'IA et tout ça ? Il n'y a pas de souci, cassez-vous.
Oui, oui, c'est ça.
Pas de souci, cassez-vous.
C'est Tim Sweeney, après ses 1000 licenciements chez Epic, qui a écrit ça.
Alors, non, Tim Sweeney, il dit j'ai pas le choix, on gagne plus d'argent.
Bah oui, Fortnite gagne plus d'argent.
Évidemment. C'est l'entreprise qui imprime le plus d'argent en ce moment. Mais
l'année dernière, il déclarait encore 6 milliards de revenus avec.
Non, mais t'inquiète pas. Quand Krafton a annoncé ça, ils étaient sur leur meilleure année de leur existence. En termes de chiffres financiers, ne t'inquiète pas.
Ah, je me fais pas de soucis.
Moi, je vais pas faut pas relier les licenciements avec des gens qui perdent de l'argent. Qui licencie des gens quand ils perdent de l'argent ? Personne.
Et surtout pas quelques jours avant la fin de l'année fiscale, donc se situe pour la grande majorité des entreprises fin mars, puisque l'année fiscale globalement c'est de début avril à fin mars de l'année suivante. Donc on y arrive. Beaucoup de gens effectivement sont en mode actuellement. Regardez, on fait de notre mieux pour augmenter la rentabilité de l'entreprise Et donc vos futurs dividendes en licenciant des gens.
C'est ça. Donc on a une situation chez Krafton où dès fin 2025, ils ont dit bon, en fait, on va aller full IA, on va mettre dans tous les process, on va virer des gens, on va virer tous ceux qui sont pas pour rester là-dedans.
Et pour eux, en fait, ils pouvaient remplacer notamment toute la partie quality assurance par de l'IA, en fait. C'est-à-dire que ce seraient des logiciels qui vérifieraient la qualité, les bugs, etc. Remplacer un petit peu ce travail-là fastidieux.
C'est pas que qualité assurance, malheureusement.
Oui, mais parce c'était, que c'était une partie, effectivement, de leur
alors
activité.
Alors eux, non, en fait, on a, comme souvent, on retient le côté qualité assurance parce qu'en général, ils se font tous dégager.
Et c'est souvent massif.
Oui, voilà, massif, définitif. Voilà, c'est la partie qui part. En plus, souvent, elle est précarisée, externalisée. Donc, c'est souvent eux qui trinquent en premier. Mais là, depuis 2026, début 2026, on a une vraie accélération de Krafton. Au moins, ils ont annoncé, ils le font. En tout début d'année, nomination de Kang Wook Lee, qui est donc le Chief AI Officer. Et j'aime bien parce que quand tu mets toutes les lettres, ça fait le caillou. Et le caillou, pour ceux qui ne suivraient pas des trucs genre Dragon Ball, c'est Dieu. Donc voilà. Donc okay. C'est le caillou. Donc
donc là, pour nous rappeler que t'es un weeb à la base.
Non, je suis là pour vous dire que l'IA, c'est Dieu. D'accord. Voilà. Donc il est là pour développer massivement l'IA dans l'entreprise et dans les mondes virtuels massifs.
Bon, voilà. D'accord.
Donc, qu'est-ce qu'il a annoncé ? Des projets concrets qui ont déjà eu lieu depuis. D'abord, des agents IA à l'intérieur de la boîte pour élargir les rôles des développeurs. pour accélérer la création de contenus procéduraux, mais pas créatifs. Hein. Attention, hein, voilà. Et explorer les mondes du verre ultra dynamiques. Mais pas pour remplacer les artistes, bien évidemment. Hein, jamais. Voilà. Et notamment, là où c'est vu le plus, c'est dans deux productions, une qui s'appelle PUBG et une autre qui s'appelle InZoi, de façon très étonnante. Les recherches IA ne s'arrêtent malheureusement pas au Pixel, vu que Krafton a créé Ludo Robotics, qui est une nouvelle entité entre les USA et la Corée, pour la recherche en IA physique et robotique, potentiellement réutilisable par l'armée, notamment via des drones autonomes, des tactiques de Battle Royale transposées au champ de bataille. Alors évidemment, Ludo Robotics déclare que les jeux resteront le cœur des applications, mais bizarrement, la dernière news qu'on a eue il y a une semaine, c'est la signature d'un accord de co-développement à long terme dans le domaine de l'IA physique et de l'IA physique. Et avec la création d'une co-entreprise avec le groupe Anua. Anua, en fait, c'est une entreprise qui fait des choses diverses et variées, notamment du transport, de la logistique et des armes.
De la défense, on dit.
Et des armes, voilà.
De la défense.
Et donc, là, Krafton a annoncé un investissement de 1 milliard dans cette co-entreprise avec le groupe Anua. Et l'entreprise, cette co-entreprise sera dédiée à l'IA, à la robotique et à la défense militaire, notamment sur les tanks et les véhicules blindés, en s'appuyant sur les travaux de Ludo Robotics qui, évidemment, n'était prévu que pour les jeux vidéo.
C'est parfaitement rassurant.
Oui, tout à fait.
Mais voilà.
Mais c'est bien de voir comment est-ce que l'argent de PUBG est réutilisé et réinvesti.
C'est ça.
Et du coup, c'est la défense militaire contre qui?
C'est la défense militaire pour quel argent? C'est alors, plus de ça, en fait. Parce
c'est une entreprise sud-coréenne.
C'est une entreprise
sud-coréenne qui est un pays qui est en état de guerre quasi permanent, malgré tout, depuis assez longtemps. Donc, il y a du pognon de toute façon dans la défense et dans l'amélioration des systèmes de défense depuis très longtemps.
Mais attention, c'est pas la défense publique. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui...
Ah, c'est Enduril.
C'est une entreprise qui vend, qui fait plein de choses, dont des armes, dont des munitions, etc. Et dont des systèmes de guidage, ce genre de choses. En gros, c'est comme si tu dis, OK, Dassault, c'est français et tout ça, mais ils vendent pas qu'à la France.
Bah, ah oui, non, clairement.
Et ben, Anua, c'est pareil, en fait. Ouais. Voilà. C'est ça. Et grâce, en fait, justement, grâce à PUBG, Anua fait des meilleures armes et j'espère que ça rendra le monde meilleur.
Tu vas avoir des vrais problèmes un jour. Un jour, on va t'empêcher d'entrer dans le studio, je crois.
C'est très possible.
C'est compliqué parce que ce soir, c'est lui qui a vraiment le plus bossé le sujet. Enfin,
T'es sérieuse?
Non, mais... Alors oui. Bah oui. Écoute, on t'a entendu parler depuis le début de l'émission, donc oui.
En tout cas, moi, que je dis pas... est parfaitement, parfaitement suivi, et prouvé. J'ai tout ce qu'il faut.
Donc voilà, donc ça c'est Crafton. Et quand ils utilisent de l'I et quand ils disent on est et à force, c'est aussi apparemment pour leur conseil juridique, si j'ai bien compris.
Ouais, il y a un petit peu un truc dans le genre. Alors on va revenir un petit peu au début de ça. Tu l'as cité tout à l'heure. Ils ont acheté en 2021. Un studio qui s'appelle Unknown Worlds, qui avait donc développé quelques années plus tôt un certain jeu qui s'appelait Subnautica.
Un gros carton indé.
Un gros carton.
Et un indie darling, comme on dit.
Ouais, c'est ça. Subnautica officiellement sorti en 2018. Et oui, qui a vraiment. Enfin, qui a un jeu survival craft d'une certaine façon, enfin, dans un univers pas entièrement sous-marin, mais presque. Enfin, ouais. Il y avait énormément de choses très très positives dans le jeu. C'est un excellent jeu. Très clairement. Le premier, en tout cas, était extrêmement bien reçu. Et donc, le studio se fait racheter par cette entité Crafton en 2021 pour une somme qui a été, on va dire, rendue publique plus ou moins quelques temps plus tard, puisque la somme, elle est juste massive. Et 2021, comme on le disait, c'était, tu parlais du Covid, tu parlais de ces époques où oui. L'argent coulait à flot dans c'est les ça. Investissements, etc. Donc, tenez-vous un petit peu quand même à vos chaises. Ils ont racheté Unknown Worlds pour 500 millions. De dollars à l'époque, plus les 250 millions de dollars prévus contractuellement dans le rachat à distribuer envers les trois cofondateurs pour à la sortie de Subnautica 2, si Subnautica 2 arrivait avant une certaine date et arrivait à un certain niveau de résultats
pour se rendre compte en fait de à quel point c'est des sommes qui sont vraiment grosses, parce que ici on a tendance à comparer, tu sais, à Bethesda, Activision, ouais. Où c'est des milliards. En fait, là le truc c'est qu'il faut bien comprendre que Unknown Worlds n'a sorti que Subnautica.
Ils ont sorti les Natural Selection, ils ont sorti 2-3 trucs, mais c'était pas du tout du même niveau.
Non, mais avant Subnautica, je vais être clair, tu rachètes le studio, oui, rachètes littéralement une bouchée de pain.
Bien sûr.
Pour un jeu solo, indé, ouais. 500 millions, c'est de la folie.
Et je sais même
c'est
pas.
C'est de la folie.
En fait, je me rends pas compte, mais je...
En dehors des 250 millions, parce que par exemple, c'est le prix qu'avait, il me semble que c'est le prix qu'avait lâché Bobby Kotick pour sortir l'ancien studio,
les gens. Qu'est-ce que tu veux dire?
L'ancien studio qui, Respawn. Quand ils étaient encore chez Electronic Arts. Bobby Kotick les a rachetés pour aller chez Activision pour créer les Call of Duty. Il les a rachetés à ce prix-là. Mais attention, Call of Duty.
Voilà.
Voilà, Call of Duty.
En fait, c'est 500 millions. Je sais même pas si c'est ce que avait rapporté. Enfin, Subnautica. Alors, ils ont fait une extension en 2021, Subnautica Below Zero, qui a moins bien marché, qui était un poil moins bien reçu. Mais malgré tout, enfin, Subnautica 2, en fait, ils avaient.
Mais c'est un jeu qui s'est vendu à quoi? Peut-être trop. C'est pas un jeu qui s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, Subnautica, me semble-t-il. Hein.
C'est une bonne question.
Parce que tu sais, les 10 millions de sellers, les trucs comme. Parce que les 10 millions de sellers, normalement, tu sais, c'est justement les. Tu vas avoir des jeux comme, je sais pas, Assassin's Creed, ce genre de trucs, tu vois, mais Subnautica, c'est normalement. C'est censé être un peu plus niche et que. Voilà. Et. Sachant que le jeu coûte 30 euros, tu vois, à peu près, pour arriver à 500 millions, faut en lâcher quelques-uns, tu vois.
Je vais c'est estimé à peu près à 10 millions sur Steam uniquement.
Ouais.
Donc tu peux rajouter 2-3 autres sources, mais effectivement, c'est pas non plus.
Ouais, sachant que sur console, je pense pas que ça rapportait énormément, et que sur Epic, globalement, il faut juste rajouter le prix que Epic a donné au studio, quoi.
Voilà, pour voir
parce qu'il a été, parce qu'il a été distribué gratuitement là-bas. Donc
C'est pas forcément tant en tout cas.
Tu dis pas, ok, 10 millions, c'est normal que ça rapporte 500.
C'est pas un jeu que tu sais comme, qui a déjà rapporté 1 milliard et qui du coup justifierait.
Voilà.
C'était déjà beaucoup trop, mais comme le rappelait Jason Schreier assez récemment, c'était une époque. En fait, cette époque-là où on pensait que voilà, la croissance serait exponentielle à 2 chiffres pendant environ les 35 prochaines années.
Oui, tout le monde a été très con à cette époque-là.
Ah, complètement. Et du coup, ils ont effectivement claqué ce pognon qui a été donc. Il y avait pas mal d'histoires, pas mal de discussions sur comment est-ce que l'argent devait être réparti entre les différents fondateurs, les différents travailleurs dans le studio, qui, pour certains en tout cas, ont récupéré des sommes, parce que malgré tout, il y a une partie de cet argent qui a été distribuée. Il y avait un minimum de ruissellement directement auprès des travailleurs également, où ils n'étaient pas si nombreux que ça, ils étaient moins d'une centaine à l'époque. Et du coup, il y en a certains qui ont récupéré des sommes à 6 chiffres, qui ont été des game changers, comme il disait, pour certains. Mais il y avait
malgré tout... Changer, carrément.
Life changer, parce complètement, ouais, bien sûr. Mais tu avais donc en point de mire la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est Subnautica 2, qui était déjà en projet, qui était peut-être même déjà en développement, je crois, à l'époque où ils ont sorti Below Zero.
Oui, ils avaient déjà annoncé des trucs pour une suite et tout. Déjà ouais. Que Below Zero, tu sentais que c'était une demi-intention par rapport, ouais. Et ils le disaient, ça faisait partie du narratif de quand ils ont sorti le jeu, en disant, c'est pas extrêmement ambitieux, mais c'est normal parce que l'ambition, on la met surtout sur le prochain jeu.
Et du coup, Subnautica 2 donc avait été déjà très attendu par les joueurs et d'un coup ils se retrouvent avec une sacrée pression quand même par la valeur de ce rachat, les sommes en jeu, que ce soit pour les dirigeants du studio ou autre, pour pas rentrer non plus dans tous les détails, absolument tous les détails, il y a eu un certain nombre pendant quelques années finalement, entre le rachat 2021 et je dirais presque 2024-2025, on avait assez peu d'informations. On avait de temps en temps des petites news sur le développement du jeu, mais pas beaucoup plus que ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça coïncide avec certains changements dont tu avais parlé chez Krafton. Le virage Foulia, il s'est aussi accompagné d'un changement de CEO, enfin d'un nouveau CEO relativement récemment. Il y a un certain nombre de choses qui avaient un petit peu changé chez Krafton. Ils sont arrivés donc globalement fin 2025. La question a été clairement posée de où est-ce qu'on en est? Est-ce que le jeu est prêt à sortir en Early Access?
Sachant qu'il y avait déjà eu des remous auparavant sur la production, on entendait des retours où on disait, on entendait pas mal de retours par des insiders, etc., comme quoi c'était pas génial.
Ouais, ça se passait pas aussi bien que ce qu'ils voulaient. Les deux cofondateurs plus le CEO Ted Gill, qui était notamment les deux cofondateurs qui étaient un petit peu sur autre chose en même temps et qui avaient d'autres projets à côté, qui n'étaient pas forcément autant impliqués qu'ils avaient pu l'être à l'époque du premier. Il y avait un petit peu cette discussion-là aussi sur la direction à prendre par rapport au projet. Et la question donc s'est posée. Il y a eu un clash clairement entre Krafton et ces trois personnes, les deux cofondateurs du studio et Ted Gill qui était le CEO, puisque pour eux, le jeu était sur la bonne voie. L'objectif, il y avait une deadline pour eux pour toucher ces 250 millions de dollars. Il fallait que le jeu sorte, si je ne dis pas de bêtises, c'était vers septembre ou octobre 2025 et atteigne un certain niveau de vente. Sauf que pour eux, en fait, le jeu était suffisamment avancé, suffisamment prêt pour sortir dans l'état où il était. Et la réponse de Krafton a été globalement, officiellement et on va dire publiquement, le jeu n'est pas prêt à sortir parce que vous travaillez pas assez dessus, parce que les trois personnes en question ne sont pas full dedans et ne font pas le boulot tel qu'on l'attend de leur part. Pour nous, le jeu n'est pas prêt à sortir et on va du coup modifier la tête de l'entreprise parce que elle est mal gérée. Globalement, ça a été publiquement la décision et la justification de la décision qui a été donc de virer les deux cofondateurs et le CEO en même temps, pour les remplacer par un certain, j'ai oublié son nom, Steve Papoutsis, je crois que c'est ça. C'est ça.
La valse, j'ai pas tant suivi la valse.
Ouais.
C'est plus l'aller-retour qui m'a.
Oui, parce que l'aller-retour, il est beaucoup plus récent. Ouais. C'est un peu aussi ce qui amène un petit peu la discussion aujourd'hui. Mais effectivement, le Steve Papoutsis est mis en place parce que c'était déjà quelqu'un en fait au sein de Krafton. Tu avais parlé tout à l'heure de Callisto Protocol.
Oui.
Et le gars en fait était producteur sur, oui. sur Callisto Protocol.
Oui, sachant que peu après la sortie de Callisto Protocol...
Il était déjà CEO en fait, de Striking Distance.
Glenn Schofield est parti, donc il fallait bien un CEO pour
remplacer. Je ne suis pas sûr que, Schofield était CEO, je crois qu'il était lead designer pas forcément CEO de la boîte.
Il était lead design, mais il était à la prod aussi.
Ouais, en fait, voilà, donc, il était peut-être un parti plus technique, et du coup, voilà, ils ont mis ce gars-là qui finalement n'a jamais travaillé sur les Subnautica. À leur place, en mode bon, maintenant on va remettre quelqu'un de chez nous pour contrôler le travail et surveiller que ça va bien se passer comme il faut. Évidemment, la première réaction du public et même d'ailleurs des trois personnes concernées, ça a été de déclarer le plus fort possible, le plus publiquement possible, que Crafton les licenciait pour ne pas justement leur payer ce qui était prévu dans le rachat, depuis le rachat, ce qui était donc ces 250 millions de dollars. Alors il y a eu un petit peu de confusion dans la communication, on va dire, publique. Il y a des gens qui pensaient que ces 250 millions étaient prévus pour tout le studio, et que du coup tous les développeurs allaient être concernés, et du coup ils voulaient squeezer du pognon également à ces développeurs-là. Ce à quoi Crafton a répondu non, de toute façon on a déjà prévu que 25 millions de dollars étaient prévus en cas de réussite du jeu pour les 40 développeurs qui faisaient partie de l'entreprise à ce moment-là, qui étaient déclarés à ce moment-là, donc avec chacun évidemment une répartition prévue. Mais il y a eu effectivement cette communication de chaque côté, en fait. Crafton qui dit non, vous travaillez pas assez bien, c'est pour ça qu'on vous vire. Eux qui disent, ils veulent juste éviter de nous payer. Peu de temps après, du coup, procès. Plusieurs procès. D'ailleurs, les uns se sont attaqués dans tous les sens. Je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails à ce niveau-là. Mais effectivement, durant ces différentes audiences, etc., Crafton a changé de version une première fois. Ah. Ils avaient d'abord dit qu'effectivement, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas bien faites. Ensuite, ils ont dit spécifiquement, regardez, vous faites ça à côté, donc ça vous prend trop de temps et c'est pour ça que vous n'êtes plus dans le projet. Bref, il y a eu un petit peu de discussion, mais surtout, on a appris un truc qui va complètement reboucler avec ce que tu disais au début, c'est que le CEO de Crafton, en fait, a fini par reconnaître, parce qu'il n'avait pas reconnu au début, qu'il a utilisé globalement une IA, je ne sais plus si c'est ChatGPT ou pas, mais spécifiquement ou pas, mais bref, il a demandé à une IA comment éviter de payer les 250 millions qui étaient prévus contractuellement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a, il y a ce qu'on disait un petit peu au début.
Et apparemment, il a fait ce que lui a dit l'agent en question, voilà. Enfin le ChatGPT, ouais. Le DeepSeek,
ce que tu veux. Ouais.
Et le problème, c'est que DeepSeek, visiblement, n'a pas de diplôme au barreau.
Ah bon.
Voilà. Visiblement.
Et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a, enfin, tous les gens du service juridique chez lui, etc., et même du service financier de chez Crafton, lui disaient, mais non, tu ne peux pas faire ça.
Ouais.
Mais il a écouté, effectivement, je pense qu'il avait déjà pris sa décision, que ça lui sert un petit peu aussi de justification.
I know better.
Ouais, voilà, il y a un peu ce côté-là.
Pardon. Non, moi je sais. AI knows better.
Ouais, voilà. Vraiment en mode, c'était, il avait besoin d'une confirmation extérieure ou quoi que ce soit. Enfin, il a choisi ça. Dans le sens où, je pense que ça va un peu plus que, j'ai posé une question ouverte à ChatGPT et du coup, c'est lui qui a décidé de virer les gens. Je pense que lui avait déjà ce projet et, ça a été une excuse et en tout cas, ça a été une très mauvaise communication autour
de
ça.
Oui, quelque part, c'est peut-être une fausse excuse aussi, tu vois, en mode, en fait, il va un peu faire le bébête, entre guillemets, genre, non, mais en fait, j'ai demandé conseil à une IA, mais alors que ça se trouve, il voulait le faire tout seul,
Je pense qu'il voulait le faire depuis toujours. Mais malgré tout, ça va aussi dans ce que tu disais depuis tout à l'heure, c'est on veut être
full IA.
On a confiance en les infos que nous donne l'IA.
Après, moi, ça me rappelle deux anecdotes. Une anecdote perso qui est un type dans mon ancienne boîte qui s'est fait virer pour incompétence crasse et il était complètement incompétent et mauvais et pas de bol. En plus, il était directeur commercial, c'est con, tu vois. Et donc, il s'est fait virer.
On aurait pu avoir de la compassion, mais il était commercial.
Non, mais voilà, c'est ça. Il s'est fait bien virer comme il faut. Sauf que la personne qui a décidé de le faire virer l'a viré sans respecter les choses, enfin sans respecter le droit du travail classique, c'est-à-dire un motif. J'en parlais au hasard, tu vois. Et bizarrement, ça retombe sur le nez de l'entreprise et de façon assez méchante. Le deuxième truc auquel ça me fait penser vraiment à Infinity Ward. Infinity Ward, qui est une entreprise donc qui a été créée en 2003 lorsqu'il y avait un des jeux qui s'appelle Medal of Honor qui était fait chez EA. Il y a un dénommé Bobby Kotick qui a dit hey, venez chez moi.
Arrête de parler. Vraiment, tu fais une obsession sur ce gars-là.
Venez faire une entreprise qui s'appelle Infinity Ward. Vous pourrez faire vos jeux Call of Duty, tout ça. Ils ont fait du coup de Call of Duty la licence qu'on connaît, tu vois. Et le truc, c'est que il y avait au bout de, en fait, il y avait dans la création, il y avait pour les deux co-créateurs du studio, Bobby Kotick avait dit, en fait, c'est simple, au bout de X années, quand vous serez dans la boîte, vous recevrez un paquet de thunes absolument indécent. Qu'est-ce qui s'est passé début 2010, deux mois avant
la deadline,
les deux types se font virer pour non-respect de contrat et insubordination. Et là où je me dis que Bobby, il est meilleur que Crafton, c'est que lui, il a gagné son procès. Oui. Parce que les autres, forcément, ils ont lancé un procès et Bobby, il a gagné, lui.
Et oui, mais c'est pour ça que c'est ton idole.
C'est pour ça que c'est un vrai.
C'est pour ça que c'est ton idole et que t'es un sale bon. Type. Pour revenir à Crafton, effectivement, donc ça, c'était fin l'année dernière, globalement.
Ouais, fin 2025, tout ça.
Voilà. Et du coup, très récemment, donc vraiment, il y a une semaine, il y a 10 jours. Ouais, une semaine ça. Et demie, 10 jours.
Ouais, Crafton aime bien l'actu en soi.
Ouais, ils aiment bien être présents. On leur crache dessus, mais ils aiment bien être présents. et donc, effectivement, ces procès ont donné lieu. Donc, parce que l'entreprise Unknown Worlds, si Crafton est basé en Corée du Sud, Unknown Worlds, c'est une entreprise californienne, à San Francisco.
Oui, c'est San Francisco. Ouais,
et du coup, c'est un juge américain qui a été sollicité pour cette histoire, de leur côté. Et ce juge, en fait, a tout simplement. Suivant les arguments, certains des arguments dont on a parlé, et notamment il a jugé que c'était pas justifié de licencier les gens par rapport à l'avancement du projet, par rapport à plein de trucs, a été évoqué effectivement le fait que le gars ait utilisé ChatGPT comme on va dire source.
Alors c'est plus une anecdote qu'autre chose.
C'est plus qu'une anecdote qu'autre chose, mais ça fait partie du process. Mais et du coup voilà, ça fait partie de tout ça. Mais globalement, le gars a dit non, vous n'aviez pas de raison de le licencier. Vous avez compromis la réussite du projet en faisant ça, puisque vous avez complètement chamboulé le truc. Il y a des gens qui sont partis de chez Unknown Worlds à la suite de ces licenciements. Donc voilà, ça a affecté la viabilité du projet, qu'il soit terminé correctement et dans les temps. Du coup, parce que justement, il a également, et surtout principalement, reproché qu'ils ont mis à la tête du projet quelqu'un qui n'avait jamais bossé dessus, qui venait du jeu vidéo, oui, mais qui venait de complètement autre chose, et qui n'était pas la personne la plus adaptée, finalement, à lead le projet, qui était déjà quand même très avancé. Ce qui fait que... Ce qu'il
mais
a décidé,
même carrément, en fait fini, en fait. Enfin, je veux dire, alors, en tout cas, pouvant sortir, selon les...
Il est prêt à sortir en Early Access, c'est ce que
tu disais. Prêt à sortir en Early Access, selon... non, mais ça veut dire déjà un niveau d'avancement certain, quand même.
Et du coup, ils ont remis à la tête, le juge, en fait, a décidé de remettre à la tête de Unknown Worlds, Ted Gill, donc, qui était déjà le CEO à l'époque.
L'ambiance doit être super.
Surtout oui, parce que du coup Steve Papoutsis, qui était là, qui avait plus de légitimité finalement, se retrouvait à plus être présent. Enfin, il avait plus le droit finalement d'être là d'une certaine façon. Enfin, c'est
ouais. Du coup, il s'est passé quoi pour lui? Enfin, il est toujours.
Il a pris le temps. Il a pris le temps avant de se faire remplacer, de faire un mémo interne pour communiquer avec les équipes en disant OK, on et d'ailleurs c'était la version officielle de Crafton, c'est OK, on accepte la décision de justice. On va faire en sorte que de travailler avec Ted Gill, etc., de faire en sorte que tout se passe bien. Toujours est-il que peu de temps après, donc vraiment quelques, même je crois que c'est le lendemain matin, le Steve Papoutsis et en tout cas la direction restante, enfin la direction sortante, comme on dit en cas d'élection, de Unknown Worlds a fait un mémo interne pour dire OK, on va faire en sorte que ça travaille bien, dans l'objectif de sortir le jeu en early access dans les meilleures conditions au mois de mai. Ils ont dit ça dans un mémo interne qui, de façon très étonnante, a été relayé instantanément par IGN. Donc, ce qui se dit effectivement, c'est que ça a été un leak complètement volontaire et contrôlé.
Oui, parce que et d'ailleurs, il n'y a pas un moment où justement ils avaient gueulé sur les deux anciens, les anciens PDG, parce qu'ils avaient annoncé une date de early access, justement.
Alors, ils avaient dit, on sera prêt à sortir à peu près. À
oui,
date,
mais
etc.
Justement, ça faisait partie aussi des arguments pour dire c'est pas bien.
Parce qu'il y avait vraiment, comme je le disais au début, ce conflit sur le fait que le jeu soit prêt ou pas pour Krafton, non. Pour eux, oui, etc.
Bon. Et que donc c'était assez fun de se retrouver quelques mois après avec le PDG qui lui-même sort la date. Quoi.
Alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, parce qu'au moment où il l'a fait, il n'était plus le PDG.
C'est ça.
Et c'est d'ailleurs ce qui a relancé complètement la discussion. Parce qu'un des trucs qui a été décidé également par le juge, c'est que en fait, la deadline pour que le jeu sorte et qu'ils atteignent le niveau d'objectif prévu dans les contrats pour toucher ces 250 millions, qui sont toujours au cœur, finalement, de la discussion en permanence, qui traînent depuis 2021 et que Krafton, à mon avis, aussi traîne un peu comme un boulet, comme les 500 millions qu'ils ont investis à l'époque. Je pense qu'il y a vraiment aussi ça, parce qu'ils ont besoin de pognon pour investir dans l'armement, comme tu le disais. Et du coup, voilà, et ça a déclenché une nouvelle polémique directement après, parce que les avocats, donc des anciens dirigeants, accusent maintenant Krafton d'avoir organiser finalement ce leak de la diffusion de l'information de la date de sortie en faisant ça, en leur privant du contrôle sur l'information de la date de sortie. On le sait relativement bien quand on est un minimum dans le milieu, les dates de sortie, les trailers qui informent des différents événements qui vont lier le jeu, c'est des moments importants. C'est des moments très importants parce que c'est le moment où tu fais ta campagne médiatique autour, c'est le moment où tu fais plein de trucs. Tu l'as prévu, tu l'as préparé, tu as préparé voilà du contenu promotionnel à envoyer aux rédactions, des vidéos à balancer partout. Tu le fais souvent à un moment où il y a une sorte un showcase, une conférence, quelque chose pour que ce soit visible partout en même temps. Et là, du coup, en fait, Krafton a volontairement sapé cette phase-là, en fait, cette phase importante de la montée en hype, finalement, oui, d'un jeu. Souvent, c'est comme ça. Enfin, ça fait partie, finalement, de du cycle de vie d'un jeu. Enfin, en tout cas, de pré-production, de pré-sortie. Et du coup, ils disent que ça remet encore plus en cause, finalement, la réussite du truc. Parce que, est-ce que mai, c'est la bonne date? Est-ce que c'est le moment où le jeu sera vraiment prêt? Sachant que, comme je disais avant, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma phrase, le juge avait repoussé la date pour atteindre ses objectifs à septembre 2026. Donc septembre 2026, c'est dans 6 mois aujourd'hui, un peu moins maintenant. S'il sort au mois de mai, ça leur laisse quelques mois pour atteindre effectivement un certain niveau d'objectif durant l'early access. On va dire en termes de timing, c'est pas forcément déconnant de dire mois de mai pour atteindre des objectifs en septembre, c'est pas forcément déconnant. Maintenant, voilà, est-ce que c'est réellement ce qu'auraient décidé les gars? Ils ont même pas eu le temps en fait de revenir. Le gars a même pas eu le temps de revenir dans son bureau et d'ajuster, enfin d'évaluer là où ils en sont.
Il s'est vraiment fait couper l'herbe sous le pied. Il a pas eu le temps de. Ouais.
Exactement, ça a été fait de façon opportuniste, comme ils le disent, sans considération pour l'impact sur les communautés, etc. Et du coup, il y a à nouveau les avocats des anciens dirigeants qui sont. En tout cas, Ted Gill est revenu, mais pas les autres. Ils sont toujours pas, ils font plus partie de l'entreprise. Mais bref, leur statut a changé aussi, mais on n'a plus le temps d'entrer dans les détails. Bref, et donc ce bonus finalement qui est toujours au cœur du truc, on ne sait pas trop où il en sera, parce que Krafton accepte la décision du juge, mais n'a visiblement pas décidé de lâcher l'affaire pour autant.
Bah en fait, ce que je trouve le plus fou dans l'histoire uniquement sur Subnautica, c'est que tout ce bordel n'augure rien de la qualité du jeu.
Bien sûr.
C'est-à-dire que bon, si le jeu sort et qu'il est que t'as l'impression qu'il est fait à moitié et qu'il y a des trucs qu'il est pas cohérent, bon, on saura pourquoi. Hein, mais tu peux très bien avoir. On a pas mal d'histoires de jeux qui ont été créés dans des conditions absolument chaotiques et qui sont devenus des grands jeux cultes, etc. Donc ça n'augure rien. Moi, par contre, le truc, c'est pas par rapport à la qualité du jeu, hein, parce que bon, ça c'est selon tout un chacun. C'est comment globalement, je vais pas dire on a tué, c'est fort, mais on a quand même largement tapé sur la hype Subnautica. C'est-à-dire que en 2000, pendant le Covid, Subnautica, tout le monde voulait y jouer, tout le monde y jouait, tout le monde voulait la suite, tout le monde machin. On est en 2026, j'ai l'impression que personne n'en a rien à foutre. Ouais, quand je dis, quand, enfin, je veux dire personne. C'est gros, mais que en fait, c'est quand même c'est beaucoup, pas mal éteint par rapport à ce que ça a été.
Il y a un peu de ça, mais il y a beaucoup de méfiance en fait. C'est pas tant qu'ils s'en foutent, c'est plus que les gens sont très méfiants en mode, bah, on sait pas ce que ça va donner. Mmh. Et comme il y a plein d'histoires qui puent, bah, on sait pas trop.
On attend de voir.
Un peu Bloodlines 2, tu vois.
Ouais, je pensais à Dead Island 2 aussi, qui a eu
une, il a une histoire compliquée, mais ça s'est bien passé au final.
Parce que le jeu est bon. Donc étonnamment, ça a surpris tout le monde que le jeu soit bon. Mais,
Bah, pareil vois, pour le deuxième Dying Light 2,
ouais, qui est correct
où,
aussi.
Ça
a été plus compliqué. Ouais,
ça a été compliqué notamment avec Avlon, etc. Ouais.
Mais ça a été plus compliqué sur la fin. Il y avait déjà une bonne partie du boulot qui était fait sur sur le moteur, etc. Donc mécaniquement, le jeu était pas mauvais déjà.
Okay.
Donc bon, je sais pas.
Puis, mais là, bon,
ils ont fait une liste récemment.
Ouais.
Bon.
Mais bon, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, je repense en fait à ça par rapport à parler. Tu parles un peu de hype, ce genre de truc. Enfin, t'as un jeu que on a beaucoup entendu parler. Au moment avant qu'il sorte, ça s'appelle Silksong, qui est sorti début septembre.
Quoi ?
On a entendu énormément parler, et à la sortie, ça a été un truc, ça a pété dans tous les coins, on entendait parler de ça.
Il les a l'Indie Game Lion, non ?
Les gens essayaient de sortir leur jeu à un autre moment pour éviter Silksong. Bon, depuis, il y a un truc qui s'est passé, il y a un jeu qui est sorti en même temps que Marathon, en même temps que beaucoup de jeux la même semaine, énormément de jeux sortis.
Comme Mugenix ou Slay the Spire 2 ?
Slay the Spire 2.
Slay the Spire 2.
Et en deux semaines, il a battu les ventes, il rapportait plus de pognon, il a vendu plus d'unités.
Que Marathon ?
Que Hades, que Silksong. Que Hades 2, que Silksong, que Marathon, oui, mais c'était pas déconnant. Enfin, c'est pas surprenant.
Après, une fois de plus, entre le public des rogues et le public des platformers hardcore, c'est pas exactement la même, mais
Il était beaucoup moins attendu. T'as des articles qui commençaient par...
Mais Mugenix, par exemple,
alors que Silksong était vraiment très attendu, Slay the Spire 2 arrive un peu plus discrètement, tu parles, il a tout pété.
Tu vois
ce que je veux dire sur le côté, les gens en parlent pas, très peu de gens parlaient de Slay the Spire 2.
Non, mais
il était très attendu, les gens l'avaient en wishlist à millions, mais ça en parlait pas.
Oui, mais la presse, les médias, tout ça, en parlait pas
plus que ça. Du coup, oui, alors que pour Silksong, beaucoup plus.
Oui, mais pour le coup, après, oui.
Mugenix aussi, effectivement.
Mugenix,
très bon résultat.
Mugenix a un excellent résultat alors que le jeu est passé sous le radar jusqu'à ce qu'il sorte. Et même maintenant,
t'as vu comment il communiquait
avec des proutes globalement.
Voilà. Et des chats qui baisent. Bon, non, c'est quand même compliqué.
Globalement,
tu mets pas ça partout. Quoi.
Mais le truc c'est non mais je suis d'accord sur le côté. La différence de paysage entre Subnautica qui était vraiment sur pas que sur toutes les lèvres mais aussi sur tous les écrans, tu vois, sur tous les écrans.
Lui qui était clairement un triple I.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà,
qui est à la limite du double A, enfin qui a la limite avec des vrais budgets importants, quoi.
Voilà, il était porté, justement comme les Silksong, comme un Ori, comme ce genre de truc, quoi. C'est-à-dire que c'est, la cible du triple I entre guillemets.
Ouais,
quoi, voilà.
Complètement. On en reparlera d'ailleurs du triple I parce qu'il y a un showcase bientôt.
Oui. Et on parlera pas du Xbox Showcase qui a eu lieu à 18h parce que.
Bah non, parce que j'étais pas au courant.
Parce qu'on l'a pas vu.
Je l'ai pas vu passer non plus.
Ok. On en reparlera bientôt.
Très bien.
Du coup, c'était long.
Oui, c'était
chargé.
Oui, en fait, en même temps, c'est une belle entreprise.
C'est une sacrée histoire.
Ouais. Et vive.
Plus jamais tu rentres dans le studio.
Non, ça c'est pas moi.
Non, c'est pas toi qui dis ça.
Merci Bettina.
Merci à vous deux, j'ai appris plein de trucs.
Merci à vous deux également.
Merci Romain. On remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game, Radio Canu pour l'accès au studio, et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, paraît-il.
Oh waouh !
Paraît-il, un compte Blue Sky.
Voilà, sur
Instagram.
On a un compte Blue Sky, un compte Instagram. Demain, Snap.
Ils sont tout frais, tout neufs.
Il y a littéralement la couche de peinture, elle est fraîche là. Littéralement.
Parfait. Et venez voir les travaux.
Voilà.
Venez visiter.
Voilà. Et a priori pas la semaine prochaine, dans deux semaines, on fait l'émission.
Ok.
Ok, d'accord. Très bien.
Voilà, j'impose.
Ok,
voilà, c'est
super.
C'est en même temps, t'es là la semaine prochaine.
Non.
Et moi non plus. Donc voilà.
C'est moi qui ai les clés.
Bah, tu peux faire une émission tout seul.
Et vous aurez un stream de Romain, c'est super. Il vous fera 6 heures d'affilée.
Des bisous tout le monde.
Ciao.
Salut.
Bonne soirée.